Le lit de justice.
Au centre d'une estrade à degrés, sur un siège aux bras terminé par des têtes de lion, Philippe VI était assis, couronne en tête et revêtu du manteau royal. Une grande broderie de soie aux armes de France ondulait au-dessus de lui. Il se penchait de temps à autre, tantôt à sa gauche, vers son cousin le roi de Navarre, tantôt à sa droite, vers son parent le roi de Bohême, pour les prendre à témoin du regard et leur faire apprécier combien sa mansuétude avait été longue. Le roi de Bohême secouait sa belle barbe châtaine d'un air à la fois confondu et indigné. Se pouvait-il qu'un chevalier, un pair de France, comme l'était Robert d'Artois, un prince à la fleur de lys, se fût conduit de telle façon, eût mis la main à d'aussi sordides entreprises que celle en ce moment énumérée se fût compromis avec des gens d'aussi méchante espèce. Au rang des pères laïcs, on voyait siéger pour la première fois l'héritier du trône, le prince Jean, anormalement grand pour ses 13 ans, enfant au regard sombre et lourd, au menton trop long, et que son père venait de créer duc de Normandie. À la suite du jeune prince se trouvaient le comte d'Alençon, frère du roi, les ducs de Bourbon et de Bretagne, le comte de Flandre, le comte d'Étampes. Il y avait 2 tabourets vides, celui du duc de Bourgogne, qui ne pouvait siéger, étant parti dans le procès, et celui du roi d'Angleterre, lequel ne s'était même pas fait représenter. Parmi les pères ecclésiastiques, on reconnaissait Mgr Jean de Marigny, comte évêque de Beauvais, et Guillaume de Trie, duc archevêque de Reims. Pour donner plus de solennité encore à ce lit de justice, le roi y avait convoqué les archevêques de Sens et d'Aix, les évêques d'Arras, d'Autun, de Blois, de Forez, de Vendôme, le duc de Lorraine, le comte Guillaume de Hainaut et son frère Jean, et tous les grands officiers de la couronne, le connétable, les 2 maréchaux, Mils de Noyers, les sires de Châtillon, de Seuilcourt, de Garancière, qui étaient du conseil étroit, et bien d'autres encore, assis en retour de l'estrade le long des murs de la grande salle du Louvre, où se tenait l'audience. À même le sol, les jambes repliées sur des carreaux d'étoffe, étaient entassés les maîtres des requêtes et conseillers au Parlement, les clercs de justice et ecclésiastiques de petit rang. Debout, en face du roi, à 6 pas, le procureur général Simon de Bussy, entouré des commissaires d'enquête, lisait depuis 2 heures les feuillets de son réquisitoire, le plus long qu'il ait eu à prononcer en toute sa carrière. Il avait dû reprendre tout l'historique de l'affaire d'Artois, dont l'origine remontait à la fin de l'autre siècle, rappeler les premiers procès de 1309, l'arrêt rendu par Philippe le Bel, la rébellion armée de Robert contre Philippe le Long en 1316, le second jugement de 1318, pour parvenir à la procédure présente, au faux serment d'Amiens, à l'enquête, à la contre-enquête, aux innombrables dépositions recueillies, aux subornations de témoins, à la fabrication des faux, aux arrestations de complices. Tous ces faits mis en lumière l'un après l'autre, expliqués et commentés dans leur enchaînement, leur engrenage compliqué, constituaient non seulement l'un des plus grands procès de droit privé et maintenant de droit criminel jamais plaidé, mais encore intéressaient directement l'histoire du royaume sur une période d'un quart de siècle. L'assistance était à la fois fascinée et stupéfaite, stupéfaite par les révélations du procureur, fascinée parce qu'elle découvrait la vie secrète du grand baron devant lequel hier tous tremblaient encore, dont chacun cherchait à devenir l'ami et qui avait si longtemps décidé de toute chose en la nation de France. La dénonciation des scandales de la Tour de Nesle, l'emprisonnement de Marguerite de Bourgogne, l'annulation du mariage de Charles IV, la guerre d'Aquitaine, le renoncement à la croisade, le soutien donné à Isabelle d'Angleterre, l'élection de Philippe VI, Robert avait été l'âme de tout cela. Créant l'événement où le dirigeant, mais toujours mu par une seule pensée, un seul intérêt, l'Artois, l'héritage d'Artois. Combien étaient-ils parmi les présents qui devaient leur titre, leur fonction, leur fortune à ce parjure, ce faussaire, ce criminel, à commencer par le roi lui-même? La place de l'accusé était symboliquement occupée dans le prétoire par 2 sergents d'armes soutenant un grand panonceau de soie où figurait l'écu de Robert, semé de France, aux lambelles de 4 pendants de gueule, chaque pendant chargé de 3 châteaux d'or. Et chaque fois que le procureur prononçait le nom de Robert, il se tournait vers le panonceau comme s'il désignait la personne. Il en était arrivé à la fuite du comte d'Artois. Nonobstant que l'ajournement lui ait été régulièrement signifié par maître Jean l'Oncle, garde de l'abbaye de Gisors, en ses demeures ordinaires, ledit Robert d'Artois, comte de Beaumont, a fait défaut devant notre sire le roi et sa chambre de justice dûment convoquée au 29e jour de septembre. Or,
Il nous a été appris et confirmé de plusieurs parts que ledit Robert avait ses chevaux et son trésor sur un navire à Bordeaux embarqué, et ses monnaies d'or et d'argent dirigées par moyens interdits hors du royaume, et que lui-même, au lieu de se présenter devant la justice du roi, s'était retrait hors des frontières. Le 6 d'octobre 1331, la femme de Divion, reconnue coupable de nombreux méfaits, accomplis pour le service du dit Robert et le sien propre, dont au premier chef faux en écriture et contrefaçon de sceaux, a été harcé brûlé à Paris en la place au pourceau, et ses os réduits en poudre, ceci par devant messeigneurs le duc de Bretagne, le comte de Flandre, le sire Jean de Hainaut, le sire Raoul de Brienne, connétable de France, les maréchaux Robert Bertrand et Mathieu de Tri, et messire Jean de Milon, prévôt de Paris, qui a rendu compte au roi de l'exécution. » Ceux qu'on venait de nommer baissèrent les yeux, et ils gardaient le souvenir de la Divion hurlant contre son poteau, et des flammes qui dévoraient sa robe de chanvre, et de la chair des jambes qui se gonflaient, qui éclataient sous la brûlure, le souvenir aussi de l'atroce odeur que le vent d'octobre leur renvoyait au visage. Ainsi avait fini la maîtresse de l'ancien évêque d'Arras.